franceinter.fr.
Debemos la verdad. A los vivos les debemos el respeto.
Bonjour à tous. C'est la fin d'une semaine historique en Colombie. Après un demi-siècle de guerre, le pays rêve de goûter au privilège de la paix. Un accord entre le gouvernement et la guérilla des FARC a été signé en début de semaine. C'est dans la ville de Cartagène, le joyau de la côte Caraïbe, que cet accord a été paraphé. Ce sont pourtant deux hommes qui ont passé leur vie à se faire la guerre qui ont permis tout cela. D'un côté, Juan Manuel Santos, le président colombien et ancien ministre de la Défense, et de l'autre, Timochenko, le leader de la guérilla. En signant ce document de 297 pages, fruit de 4 ans de négociations, ils mettent fin à la plus vieille guerre civile d'Amérique latine. C'est désormais au peuple colombien de se prononcer sur ce texte. Le référendum se tient aujourd'hui. Le oui est donné vainqueur, même si des voix influentes en Colombie s'y opposent. Selon elles, cet accord signe avant tout l'impunité des guérilleros. Plus de 260 000 morts, imputés aussi bien aux FARC qu'aux forces de sécurité, mais aussi aux groupes paramilitaires. Près de 7 millions de déplacés, c'est un sixième de la population. Des enlèvements, des disparitions par milliers. Après autant de souffrances, la paix et le pardon sont-ils seulement concevables? De Bogota à Medellín, Sarah Maquet est allée à la rencontre des victimes de cette guerre. Voici son reportage, Colombie, la paix à petits pas.
Interception, le magazine de la rédaction.
Claudia Bernal, psychologue, responsable du pôle psychosocial à la Fondation Colombianitos.
Actualmente coordino el área psicosocial.
On est juste dans la voiture en train de monter à travers le quartier où Colombianitos s'est implanté. Alors c'est assez impressionnant, ce sont des toutes petites ruelles. Ça monte de façon très très abrupte et voilà, donc on se faufile dans les ruelles. Et Claudia Bernal expliquait en fait que ça fait 15 ans à peu près que la Fondation Colombianitos a commencé à utiliser le sport pour réintégrer les enfants et pour faire en sorte que les enfants puissent acquérir certaines valeurs, puissent retourner à l'école, puissent travailler, jouer ensemble. Au début, c'était juste le sport. Et petit à petit, en fait, ils ont commencé à travailler avec des psychologues et à mettre en place plusieurs équipes vraiment de travail social. Et en fait, aujourd'hui, là, par exemple, dans le quartier où on est, ils travaillent avec 80 enfants qui viennent jouer au football quand ils ne sont pas à l'école. Et ils les aident également pour leurs devoirs. Ils essayent d'inculquer des valeurs, tout ça pour la réintégration et la réhabilitation des enfants des quartiers très défavorisés de Bogota.
Muy bien.
Muy bien. J'ai tout bien. Et là, on est arrivé, on se gare. Ya llegamos, ¿dónde llegamos?
Esta es la cancha del barrio La Joya, en donde atendemos un promedio de 80 niños los días jueves, en horario entre 8 de la mañana y 10, y 1 y media a 3 de la tarde.
Voilà, donc là on se gare en face d'un terrain de foot, et c'est là où viennent 80 enfants, donc au fil de la journée, le matin de 8h30 à 9h30, également sur l'heure du déjeuner.
Qui d'entre vous peut nous parler de la valeur sur laquelle nous travaillons ce mois-ci?
La paix.
La paix?
La paix, non?
Moi, je dis que la paix, c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas dire à quelqu'un d'autre qu'il faut faire la paix. Ici, c'est comme si on disait un gros mot.
Oui, mais dans ta vie de tous les jours, à l'école, chez toi, avec ta copine, comment tu pourrais appliquer cette valeur?
Ça peut s'appliquer, oui, mais pas avec les règles de la politique. Les accords parlent de la paix, bien sûr, mais pour moi, ça n'est pas une paix acceptable. Prenez par exemple un paysan qui s'est tué à la tâche toute sa vie pour gagner un salaire de misère. Et là, il voit arriver un guérillero qui a passé son temps à assassiner des gens. Et lui, il va gagner plus, quasiment le triple de ce que gagne le paysan moyen aujourd'hui. Alors, comme on dit ici, ça veut dire que si tu veux gagner de l'argent, il vaut mieux tuer des gens que de travailler ?
C'est vrai ce que dit ce garçon. Beaucoup de Colombiens ne veulent pas de cette paix parce qu'ils considèrent qu'elle favorise l'impunité. C'est une paix qui accorde beaucoup de garanties aux ex-guerrilleros, et ce sont les classes les moins favorisées qui sont les moins bien traitées. C'est pour ça que ça a déclenché beaucoup de débats. Moi, je pense que nous en sommes à 50-50 entre le oui et le non, mais je suis convaincue que c'est le non qui va l'emporter.
Rencontre avec Viviana Duarte Abitbol. Elle a 20 ans, elle habite à Bogota et son histoire en fait se mélange vraiment avec l'histoire de la Colombie. Elle avait 2 ans quand en 1998 son père a été enlevé par les FARC. Il a été retenu en captivité 11 ans avant d'être finalement exécuté en 2011. Aujourd'hui, Viviana Duarte Abitbol étudie en politique internationale. Elle vit avec sa maman et toutes les deux s'engagent beaucoup sur la scène publique. Elles prennent position et continuent à se battre pour que la justice soit rendue et pour que les choses changent en Colombie.
Quand j'avais 2 ans, mon père il était policier ici en Colombie et il a été pris en otage par les FARC parce que les FARC ils sont toujours pris des personnes policiers et militaires ou un truc comme ça pour avoir des... On pourrait dire que c'est à peu près une guerre diplomatique, une guerre politique, où nous sommes juste au milieu d'un sandwich, où on n'a rien à voir dans cela, mais on n'a pas eu la chance. Et il a été otage pendant 13 ans. Et en 2011, les militaires avec tout l'État, ils ont essayé d'aller les chercher. Et les FARC, ils se sont rendus compte, ils l'ont tué. Lui et 3 autres policiers et militaires qui étaient avec lui.
Alors là, sur le grand écran de la télé du salon de Viviana et Suzanne, vient d'apparaître le visage d'Edgar Yesid Duarte, le père de Viviana, le mari de Suzanne. Il s'agit d'une des preuves de vie reçues par les deux femmes lors de sa captivité. L'image est floue, Edgar Duarte apparaît amaigri. Il regarde fixement vers la caméra et il répète à sa fille et à sa femme qu'il les aime et qu'il a hâte de les retrouver.
Et que sepas que... Hijo te quiere y te ama mucho y que aguanta todo lo que ha aguantado es por volver a ti. Espero que tú también tengas esa fortaleza para aguantar mientras Dios quiera el regreso.
Ça c'est un des cahiers des dessins qu'il a fait pendant qu'il était pris en otage pendant très longtemps, presque 10 ans avec lui. Ça montre que même s'il était loin, c'est un des meilleurs pères du monde. Et tout cela, ce sont des poèmes qu'il faisait. Il y a beaucoup de poèmes où même moi, je n'arrive pas à les lire parce que je commence à pleurer, parce que je sens comme s'il était en train de me raconter ce qu'il était en train de vivre. Par exemple, j'ai celui-là. Il a fait les jours de mon anniversaire, 26 avril de 99. Il s'appelle « Por amor a Viviana ».
Par amour pour Vivi, je meurs tous les jours, mais comme le phénix, je renais et surgis de mes cendres avec le but de trouver la lumière dans les cœurs de ceux qui contrôlent nos sentiments. Par amour pour Vivi, je supporte les cauchemars, les nuits froides, les silences amers et j'espère qu'en me réveillant, tu sois dans la magie de mes rêves. Par amour pour Vivi, j'ai su ce qu'est être père. J'ai appris à aimer, à adorer, à vivre. J'ai découvert la tendresse, l'innocence, la douceur, la délicatesse des anges qui meurent au ciel. Je t'aime, ma petite fille.
Ça, il a fait les jours de mon anniversaire, 26 avril de 99. Ouais. C'est fort, hein. C'est vraiment... Ça touche. Ça touche. Depuis le moment que mon père il a été tué, on a su c'est qui avait pris la décision de le tuer. On a tout su depuis le début. Et les gouvernements, ils sont pris, enfin plutôt les militaires, ils sont pris une des guerrilleras qui était là. Et maintenant, elle est en prison. Mais après, avec tout cela de la justice et tout ça, avec les processus de paix et tout ça, c'est trop difficile. Hein.
Pourquoi ?
Bah parce que les FARC, ils vont jamais accepter d'aller en prison ou...
Vous voudriez les rencontrer, avoir un endroit, un espace où vous pourriez rencontrer ceux qui ont fait ça et vraiment, et qui vous demandent pardon.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour ma mère et pour moi parce que comme ça, on ne va pas sentir que ce thème, c'est si injuste. On va sentir qu'on nous tient en compte avec ces processus de paix et tout ça et on va sentir qu'on est plus. Qu'on est seulement une victime d'une de ces 7 millions de victimes qu'il y a ici en Colombie, mais que vraiment ce que le président il est en train de faire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vraiment va changer les pays.
Donc vous demandez même pas spécialement de la prison, mais que les gens, que les anciens FARC viennent et vous demandent pardon.
Oui, je pense que beaucoup de fois avec la prison, les gens ils changent pas. C'est pas une vraie méthode pour faire que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont fait, mais plutôt de parler avec nous, ou à parler avec les victimes, demander pardon, essayer de parler, de faire un peu de conscience. Et je pense que ça c'est plus important. Hein.
Il y a eu plusieurs tentatives d'accord de paix pour vous deux. Là, plusieurs fois, on a dit voilà, la paix arrive en Colombie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui?
Ok, je pense que la différence dans ce moment-là, c'est que maintenant, les gouvernements, ils ont tout fait ce qu'ils peuvent faire avec l'accord de paix. Maintenant, c'est nous les Colombiens qui allons prendre les décisions. Si nous voulons vraiment faire la paix ici en Colombie, si nous voulons vraiment avoir finalement un tout petit peu de paix, finalement arrêter un tout petit peu avec la guerre.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva y sueño con la paz.
Cette chanson de Juanes, c'est le générique de la célèbre émission de Radio Caracol, Las Voces del Secuestro, les voix de la séquestration, diffusée le samedi soir, dimanche matin, de minuit à 5h. L'émission a été créée il y a 22 ans par Erwin Hoyos, journaliste lui-même retenu en otage durant 17 jours par les FARC. Viviana et Suzy sont souvent venues à Radio Caracol pour s'adresser à leur père et mari. Et l'émission reste encore aujourd'hui bien souvent le seul moyen pour les familles de s'adresser à leurs proches retenus en otage. Récemment, Erwin Hoyos a pris position concernant le référendum d'aujourd'hui. Il appelle à voter blanc au nom des otages et des 45 000 disparus du conflit armé.
Todos nuestros hermanos secuestrados en la selva de Colombia, bienvenidas a sus familias, todos los que están buscando a un ser querido, a un secuestrado, a un desaparecido, pues aquí estamos para acompañarles en esta nueva cita por la vida, por la libertad,
Frédéric Massé, je suis directeur du Centre de recherche et projets spéciaux de l'Université Externado de Colombie. Et ça fait 19 ans que je suis en Colombie.
Voilà. Là, pour bien comprendre, on est le 2 octobre, il y a un référendum sur la paix en Colombie. Quelle est vraiment l'émotion dans le pays? Qu'est-ce qu'on ressent?
Alors, bon, évidemment, si vous allez avoir différents échos en fonction des personnes que vous interrogez. Moi, je trouve qu'on a finalement relativement peu d'enthousiasme pour ces accords de paix. Il y a des gens qui se mobilisent, mais on sent que c'est pas complètement spontané. On sent qu'il y a que ça met un certain temps à prendre forme. Alors peut-être aussi parce qu'on a tellement attendu longtemps que les gens sont encore un peu dans une certaine... Moi, je dis qu'ils sont un peu comme anesthésiés. Ça veut pas dire que les gens n'y croient pas, ça veut pas dire que les gens ne veulent pas, mais ça manque un petit peu de liesse populaire. Et ça se reflète en partie dans les sondages qui pour le plébiscite. Les sondages... alors le oui va sans doute l'emporter, j'en suis intimement convaincu. La question est de savoir quelle marge de manœuvre ou quel pourcentage le oui va l'emporter. Mais on n'est pas dans une configuration où 80-90% des gens approuvent le processus de paix. Mais ça, il y a pas mal d'explications. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre de personnes qui considèrent que ce processus fait la part trop belle aux FARC. Les dirigeants des FARC qui ont commis des crimes de contre l'humanité, crimes de guerre, n'iront pas en prison. Il est possible qu'ils y aillent s'ils ne participent pas au processus de vérité, s'ils ne confessent pas un certain nombre de choses. Mais disons que c'est très peu probable. Donc ça fait grincer un certain nombre de dents. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la rétribution économique pour les démobilisés. C'est-à-dire que les ex-combattants qui vont se démobiliser vont recevoir pendant un certain temps une aide, un subside de l'État, qui est 80% du salaire minimum pendant 2 ans, plus d'autres petites aides. S'ils montent des entreprises, il va y avoir des aides. Ce qui, effectivement, choque un certain nombre de gens, parce que pourquoi des personnes qui ont pris les armes et qui décident d'arrêter de commettre des crimes obtiendraient des bénéfices que d'autres qui n'ont jamais pris les armes et qui sont restés dans la légalité ne peuvent pas avoir. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la participation en politique. Un certain nombre de personnes rejettent et critiquent l'idée que les FARC ou les dirigeants des FARC qui sont ou vont être accusés de crimes de guerre, et etc., puissent participer en politique. Donc en fait, cette période transitoire est une façon d'assurer une certaine reconversion d'un mouvement de guérilla en parti politique. Dans les accords de paix, il y a tout un aspect qui est la refonte un petit peu du système politique colombien. Il va y avoir une commission, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être mises en œuvre, enfin... étudier, on espère mise en œuvre. La grande question est si réellement, une des grandes questions, à mon sens, est si réellement l'entrée des FARC dans la vie politique non armée, parce qu'eux se considèrent qu'ils ont toujours été dans la vie politique, mais vie politique non armée, si vraiment ça va changer le panorama politique colombien, si ça va permettre d'avoir une meilleure transparence, une meilleure ouverture, ou si le risque, et à mon sens, je suis un peu plus pessimiste, ou si le risque est que finalement les FARC, dans les régions où elles sont installées, implantées, et dans les régions où elles vont sans doute espérer obtenir des votes, si finalement, pour obtenir ces votes, une fois les périodes transitoires terminées, ils ne vont pas finalement reproduire les mêmes pratiques clientélistes, mafieuses, corrompues des autres partis politiques. Et que finalement, ils vont rentrer dans le jeu politique, mais on n'aura rien changé structurellement à la façon de faire la politique en Colombie.
No más guerra. No más. No más la guerra.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
L'un a scandé plus la guerre et l'autre a demandé pardon. La Colombie est entrée dans
les Colombiens se sont réveillés jeudi matin avec espoir. L'espoir de voir enfin se concrétiser un accord de paix avec la guérilla des FARC, un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. 4 années de négociations ont été nécessaires pour finaliser la reddition des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais la reddition des guerriers...
Il y a deux chemins possibles. Soit nous continuons un conflit qui agonise et qui a déjà fait 7 millions de victimes. Soit nous optons pour une paix solide. Et c'est ce que les Colombiens doivent faire. Ils doivent maintenant contrebalancer cet accord que nous avons obtenu hier et qu'ils n'aiment sans doute pas, avec des perspectives d'avenir ouvrant la voie à des opportunités pour la croissance future et pour l'amélioration du fonctionnement de la politique. Pour que cet accord de paix soit ratifié, il devra recueillir au moins 13% des suffrages.
Somos y seremos parte de la paz. Las madres de la Candelaria no somos ni seremos parte de la guerra. Somos y seremos parte de la paz.
Medellín, seconde ville de Colombie. Les femmes de l'association Les Mères de la Candelaria, chemise blanche, photo de leurs proches disparus autour du cou, entonnent, comme chaque semaine depuis près de 18 ans, ce slogan « Nous les voulons libres, vivants et en paix ». Teresita Gaviria se tient debout au centre du groupe, devant l'église de la Candelaria, sur une petite place de la ville. C'est elle qui a fondé l'association quand son fils a disparu. Il avait 15 ans et demi.
Mon nom est Teresita Gaviria, je suis la directrice des mères de Candelaria. Cette association est née le 19 mars 1999 avec pour but de rechercher les disparus à travers la Colombie. C'est une association de mères, de pères, d'enfants, d'orphelins, victimes de la guerre, qui ont tous souffert dans leur chair de la disparition de leur famille et de leurs proches. Quand on s'est rendu compte en 1999 que tant de personnes disparaissaient, on a commencé à travailler, à faire quelques sit-ins. Moi, je venais de visiter l'Argentine où j'avais rencontré les femmes de la place de Mai et elles ont été pour moi une référence et un exemple à suivre. On a commencé à sept femmes à travailler pour toute la ville de Medellín. On a alors cherché un point stratégique et on a choisi l'église de la Candelaria pour nous arrêter devant et crier notre slogan « On les veut vivants, libres et en paix ». Ici, personne ne voulait à l'époque entendre parler des disparus. Ni les lois, ni le président, ni les dirigeants. Tous disaient qu'on était folles. Et regardez maintenant où elles en sont, les folles. On a reçu le prix national de la paix et tous les murs ici sont couverts de récompenses et de marques de reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui 882 femmes et nous avons 1176 personnes disparues dans notre mouvement. Et si on avait accès à tous les chiffres des disparus, je pense que nous serions plus ou moins à 8000 personnes. Et ce que nous faisons, c'est donner une visibilité aux disparitions forcées et sensibiliser le pays en rappelant que nous sommes des mères qui attendons à chaque instant le retour de nos enfants.
Pour vous, qu'est-ce que changent les accords de paix ?
Ils sont très très importants. Regardez, nous sommes en train de travailler sur l'arbre de la vie et sur le sentiment de réconciliation. Nous nous sommes même rendus récemment dans une prison de haute sécurité pour travailler ensemble avec les détenus sur cette question de la réconciliation. Bien entendu, c'est très difficile parce que les mères pleurent d'abord. Elles se demandent comment elles peuvent pardonner à quelqu'un qui a tué leur fille ou qui a enlevé presque toute leur famille. C'est vraiment dur pour elles, mais il faut qu'on y arrive. Ce mur-là était couvert de photos, mais on est en train de les enlever pour les réorganiser et les présenter sur un nouveau mur ici. Donc on change tout, c'est très difficile. Regardez la photo là-haut. L'homme avec les lunettes de soleil, c'est mon frère. Et à côté de lui, c'est mon cousin. Julio César et l'autre s'appelle Jorge, celui qui a les lunettes. Moi, j'ai 13 personnes disparues dans ma famille et mortes. Lors du massacre, ils m'ont tué 7 proches, des cousins, des neveux.
Mm.
Angel Maria Medina Bejarano, vous êtes le responsable médico-légal au CICR en charge de la recherche des personnes depuis 4 ans environ. Il y a 70% des cas qui ne sont pas résolus pour l'instant au niveau des disparitions. Il y a des histoires qui paraissent incroyables, notamment j'ai lu sur, au cimetière de Medellin avec des corps qui doivent se trouver à certains endroits. Finalement, ils ne sont pas là. Finalement, c'est des os de chiens qu'on retrouve dans les cercueils. Est-ce qu'il manque une certaine cohésion générale pour avancer plus vite ?
Malheureusement, dans le pays, nous sommes toujours en conflit. À la différence d'autres pays où les recherches commencent à la fin de la guerre. En Colombie, nous sommes toujours en conflit, ce qui veut dire que beaucoup de personnes ne signalent pas leurs disparus. Et d'un autre côté, les auteurs de crimes essayent toujours de cacher leurs victimes pour ne pas être accusés ensuite. Ils cherchent les sites les plus cachés, les plus isolés dans la jungle ou la montagne, des lieux déserts. Le plus grave, c'est quand ils jettent les corps de leurs victimes dans des rivières. Car après, sans toutes les informations, le processus d'identification est très difficile.
Incluso hay un proceso en Colombia.
En Colombie, à un moment, il y a eu un vrai effort de recherche dans beaucoup d'endroits avec beaucoup d'exhumations, mais après, on s'est retrouvé sans aucune information pour savoir qui étaient ces corps. Et donc, la médecine légale a fait son travail, mais les corps n'ont pas pu être rendus, donc ils sont restés dans les instituts de médecine ou ont été rapportés au cimetière, car sans point de comparaison, sans signalement de disparition de la part de la famille, pas d'identification possible. Dans les cimetières, ces corps doivent être enregistrés dans un fichier et conservés pour que, si l'enquête avance, il soit possible de retrouver facilement le corps pour le rendre à la famille. Malheureusement, on commence juste maintenant à faire attention à ce qui se passe, car beaucoup de corps ont été perdus dans les cimetières. À tel point qu'on parle en Colombie de deuxième ou troisième disparition. Les corps qui ont été conservés dans un cimetière et qui venaient d'être identifiés, on ne les retrouvait plus car le cimetière ne tenait pas de registre. Ou alors ils l'avaient, mais comme un autre corps était arrivé depuis, le premier corps avait juste été déplacé sans qu'aucune trace écrite ne soit conservée. Ni la date, ni l'institution qui avait envoyé le corps, rien n'a été noté, rien du tout. Donc aujourd'hui, le CICR travaille pour que les corps non identifiés ou identifiés mais non réclamés soient enfin conservés d'une façon adéquate dans les cimetières pour pouvoir facilement les retrouver et les rendre aux familles.
Rencontre avec Alice Tabar, française, et Sébastien Meria, colombien. Ensemble, ils ont réalisé un documentaire qui s'appelle Retornan, ils reviennent. Ils ont même une société de production ici à Bogota qui s'appelle En la Lucha, dans la lutte. Et leur film parle d'une communauté paysanne, la communauté paysanne de Pitalito, dans le nord-est de la Colombie. Cette communauté a été victime d'un déplacement forcé en juin 2010. D'abord un déplacement forcé par les paramilitaires, puis par la police et par les hommes d'un propriétaire terrien qui exploite dans cette région des palmiers pour fabriquer de l'huile de palme. Depuis 2010, la communauté a essayé de revenir plusieurs fois à Pitalito. À chaque fois, elle a été renvoyée. Et aujourd'hui, il y a encore 17 familles qui essayent toujours de se réinstaller, de faire valoir leurs droits.
No podemos quejar
queríamos estar aquí y cumplimos con nuestro sueño. Estamos todos juntos y lo único que de pronto nos asusta es las opresiones del ejército y de los trabajadores de Juan Manuel.
Retornen, c'est un documentaire qui concerne le retour à la terre d'une communauté de paysans du département du César, donc dans le nord-est de la Colombie, qui avaient été expulsés en 2010 et qui voulaient retourner pour cultiver la terre, parce qu'ils avaient été expulsés, déplacés dans une ville moyenne, Kurumani, et ils n'avaient pas de moyens de survivre. Donc le professeur de l'école vendait des soupes pour subsister. Tous les agriculteurs étaient dans une situation de détresse économique, et aussi, pas seulement économique, mais une fatigue émotionnelle et la sensation qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre et que le temps passe, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils ne savaient pas faire autre chose, ils n'avaient pas de moyens d'accéder à un emploi, à une autre activité économique. Les enfants n'étaient pas scolarisés de manière régulière. Ils se sont dit qu'il fallait rentrer, coûte que coûte.
Et dans ce qu'on voit dans le film, c'est effectivement l'expulsion. Et ce qu'on comprend, c'est que effectivement, ce propriétaire terrien exploite une palmerie pour faire de l'huile de palme. Et donc lui, c'est finalement un exploitant privé qui va, avec la police et les paramilitaires, les expulser. Ça se passe assez souvent ?
Oui, ça se passe très souvent. La corruption en Colombie, à tous les niveaux, mais au niveau rural, est très évidente. On voit que des personnes, donc en général des personnes qui sont au devant de projets miniers, de projets agro-industriels, d'exploitation de pétrole, sont en connivence avec les maires, avec les gouverneurs des départements, avec les institutions donc publiques et les forces de police et militaires. Juan Manuel Fernández de Castro, qui est celui qui les a expulsés, est un militaire de réserve. Donc il a aussi ses amis dans les forces militaires de la région. Il a fait partie d'un programme du gouvernement Uribe qui s'appelle Agroingreso Seguro, qui a été après dénoncé dans tous les médias. C'était un système qui bénéficiait les grands propriétaires terriens au lieu de, comme il avait été annoncé, de bénéficier aux petits propriétaires terriens et aux agriculteurs à petite échelle. Il avait tous les leviers pour permettre cette expulsion. Les avocats nous disaient que quand eux, ils allaient faire toutes les procédures judiciaires pour protéger la communauté de Pitalito, ils arrivaient dans le bureau du maire et ils voyaient Fernández de Castro assis à discuter avec lui, à prendre le café ensemble, à rigoler, etc. Et ça, c'est très courant. Mais ce qu'on sait, c'est que la quantité d'hectares de terre qui devrait être restituée est tout à fait sous-estimée, et la restitution réelle des terres, elle, est encore plus limitée par les dangers, par la lenteur juridique, par le manque de moyens et de volonté politique.
Avec les accords de paix qui font une place, en tout cas à la question de la terre, là par exemple il y a un fonds de la terre pour la paix qui est créé, donc c'est 3 millions de terres qui sont censées être redistribuées. Vous, avec ce que vous avez vu, est-ce que ça vous donne espoir qu'il y ait ce fonds là qui est en tout cas pensé, imaginé pour essayer de redonner la terre à ces déplacés paysans?
Moi, j'ai de grands doutes sur le fait que 3 millions de terres vont être restituées aux victimes, parce que je ne parle même pas de volonté politique, je parle de corruption locale tellement enracinée dans la manière de vivre la politique locale, dans la manière de vivre l'administration publique locale, que je ne vois pas du tout comment on pourrait tenir cette promesse. En plus, les FARC sont responsables d'une partie assez grande des déplacements forcés, mais c'est surtout les paramilitaires, c'est les combats entre les différents groupes armés, mais c'est aussi le modèle économique et le modèle de distribution de la terre qui permet que, de manière légale, on puisse s'approprier des terres qui ne devraient pas être accaparées par des groupes agro-industriels ou miniers. Donc il y a la voie illégale et il y a la voie légale qui va continuer et qui va progresser, parce que si la Colombie est un pays en paix, alors les multinationales vont continuer à venir. Et le gouvernement les attend les bras ouverts en plus.
En Colombie, en plus des FARC, il reste plusieurs autres groupes armés, à commencer par la seconde guérilla du pays, l'ENL, qui compte encore aujourd'hui environ 1500 combattants. Les milices paramilitaires, normalement démobilisées il y a plusieurs années, continuent également leurs activités illégales et autres exactions envers des civils. Enfin, l'armée colombienne n'échappe pas au scandale, sa complicité dans des massacres au cours de l'histoire du conflit armé ayant été prouvée. Pour les 7 à 8 000 combattants des FARC, si le oui l'emporte aujourd'hui, ce sera la fin de 52 ans de lutte armée. Et les dorénavant ex-combattants se dirigeront alors vers 23 zones de sécurité et 8 camps répartis dans tout le pays. Et là, durant 6 mois, des agents de l'ONU s'occuperont de les désarmer et de les aider dans leur processus de retour à la vie civile. Un vrai défi pour des hommes et des femmes qui n'ont souvent connu que la guérilla et qui n'ont parfois jamais vu une ville. Louis est passé par ce processus de réintégration. Je le rencontre à Bogota, dans les locaux de l'association Réconciliation Colombie.
Je suis rentré à l'âge de 13 ans chez les FARC. Je suis resté 11 ans dans le groupe armé avant de me démobiliser en 2005 et de commencer mon processus de réintégration à la vie civile. Mon entrée chez les FARC, et je dis bien mon entrée car je n'ai pas été recruté, mais j'étais volontaire. C'est moi qui les ai contactés et un recruteur m'a dit comment la vie allait se passer. Chez les FARC, on se lève à 4h45 du matin, on se couche à 20h, on s'arrange pour faire à manger avec ce qu'on trouve dans le campement. On mange ce qu'on trouve quand on a quelque chose. Là-bas, il faut demander la permission pour tout, pour se laver, pour aller aux toilettes, pour avoir des relations sexuelles, pour se mettre en couple, pour tout. Absolument tout, il faut demander la permission. Le plus important chez les FARC, c'est d'obéir aux ordres, de respecter une discipline très stricte. Le recruteur m'a tout raconté et c'est comme ça que je suis rentré chez les FARC le 7
août 1994.
Moi, j'ai grandi dans une époque de violence, surtout dans les petits villages comme celui dans lequel j'ai vécu. Quand j'avais 7 ou 8 ans, dans le village, tous les week-ends, des gens étaient tués. Et donc, nous, les enfants, quand le matin on se levait, qu'on allait faire quelques courses pour le petit déjeuner, on écoutait les plus grands raconter qu'ils avaient tué, qui étaient morts noyés dans la rivière, qu'ils avaient enterrés dans le cimetière, qui avaient été assassinés dans la rue. Et donc, pour nous, c'était amusant d'aller voir les morts dans cette violence quotidienne. Eh bien, voilà, j'ai grandi là-dedans. Et puis en plus, moi j'aimais les armes. Alors quand à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à travailler dans les champs de coca, je me suis acheté ma première arme à feu avec mon salaire. Et donc j'étais un enfant armé dans le village. J'aimais les armes et je savais qu'avec les FARC, je pourrais continuer à porter mon arme dans les villages sans que cela pose de problème. En 2000, j'ai été capturé ici même, à Bogota. J'ai été envoyé en prison où je suis resté 2 ans. Je suis sorti de nouveau, j'ai rejoint le groupe armé, la guérilla. Mais quand je suis revenu chez les FARC, j'avais d'une certaine façon vu autre chose et je ne voulais plus tuer de gens comme je le faisais avant. Normalement, on nous donnait une feuille avec une liste des noms et on les tuait. Et là, j'ai dit plus jamais. Et c'est en 2005 que j'ai pris définitivement la décision de dire stop à la guerre. J'ai intégré les FARC par amour pour les armes. Et à un moment, j'ai compris que tout cela n'avait plus de sens et je me suis alors démobilisé. Même sorti des FARC, je défendais encore la guérilla. J'ai continué à tout justifier jusqu'en 2014. J'ai alors rencontré 2 anciens policiers et avec l'un d'eux, Wilson, on s'est rendu compte que j'étais le commandant du groupe qui avait perpétré un attentat dans lequel il avait perdu la vue. Pour la première fois de ma vie, j'ai alors ressenti de la honte pour tout ce que j'avais pu faire en étant avec les FARC. Je n'avais jamais senti ça auparavant. J'avais par exemple rencontré un jour une dame qui m'avait reconnu, dont on avait tué le mari, enlevé les 2 fils. Et elle m'a appelé par mon surnom de guérillero, car chez les FARC, je m'appelais Ruben. Et elle m'a dit, Ruben, vous étiez là le jour où on a tué mon mari et enlevé mes enfants. Alors, elle termine en me disant, j'aimerais maintenant savoir ce que vous avez fait de mes fils. Et moi, je lui ai dit qu'on les avait enlevés et puis qu'on les avait tués.
Je ne lui ai pas demandé pardon. Je ne lui ai même pas dit que j'étais désolé. Rien du tout. Mais si un jour je suis de nouveau face à une victime, je le ferai. Et en plus de demander pardon à cette femme, je lui demanderai de quoi elle a besoin. Car le pardon, ce n'est pas juste un mot, mais c'est aussi de pouvoir dire « vous pouvez compter sur moi ».
Nos hacemos hermanas, todas en juntas a resistencia antipatriarca. Por papá que la guerra se comió, resistimos a la guerra. Contra estilos la muerte se lo llevó, resistimos a la guerra. Por la amiga que el machista la violó, resistimos a la guerra. Por las lideresas que este estado asesinó, resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte.
Depuis les années 90, les FARC sont de loin la première guérilla en Colombie, mais pas la seule. Et si on espère la fin du conflit armé avec les FARC va générer un effet d'entraînement pour mettre fin au conflit avec le ELN, des négociations ont été engagées. Actuellement, le ELN serait en train de récupérer du terrain laissé vacant par les FARC. Donc le ELN se renforce dans les régions un peu laissées vacantes par les FARC, recrute parce qu'ils ont toujours une capacité de recrutement, et puis parce que dans les campagnes, on a toujours un certain nombre de jeunes qui sont désœuvrés et qui n'ont pas forcément d'autre choix. Et peut-être aussi une partie de certains membres des FARC qui ne se seraient pas démobilisés ou qui se seront démobilisés et qui se remobilisent. En Colombie, les estimations vont entre 20 et 30% des FARC qui ne se démobiliseraient pas. C'est assez élevé. Pourquoi c'est assez élevé? Parce que ben, justement, il y a d'autres groupes et d'autres alternatives. Et puis, il y a aussi tout un des activités illégales derrière, donc drogue et activités minières illégales, qui finalement permettent à ces groupes d'avoir des ressources financières suffisantes. Donc le ELN est plutôt dans une logique de renforcer sa visibilité, son identité, en disant ils ont toujours été un peu considérés comme les seconds, donc maintenant c'est un peu l'horreur, on est les derniers vrais révolutionnaires d'Amérique latine, on ne va pas s'agenouiller devant le grand capitalisme et les élites colombiennes. On a vu certaines déclarations de leurs leaders récemment après la conclusion des accords de paix, disant on respecte ce que font les FARC, mais on ne sommes pas d'accord. Je pense, pour ma part, qu'on va assister davantage à une normalisation qu'à une véritable pacification. C'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes seront mis entre parenthèses. On ne résoudra pas toutes les causes à l'origine du conflit. Et le risque est qu'on arrive à ce que j'ai appelé une paix mafieuse. C'est-à-dire que dans certaines régions du pays, on ait une impression de paix parce qu'on n'aura pas nécessairement une violence manifeste ou très forte, mais on aura toujours un certain nombre d'acteurs primaires, politiques, économiques et armés, qui vont se cohabiter et qui vont en gros faire un pacte du silence et partager un certain nombre de richesses dans ces régions. Ça existe déjà dans certaines régions. Si vous allez par exemple dans la région des Émeraudes en dehors de Bogota, ça fait 20 ans qu'on a une espèce de paix mafieuse où finalement il y a un état d'un peu de non-droit, il n'y a pas vraiment de violence parce que les assassinats se font en dehors de la zone. L'État n'intervient pas tellement et ce sont un certain nombre d'acteurs qui contrôlent cette région.
Moi, j'ai un fils qui a disparu. Ils m'en ont tué deux autres, assassinés. J'ai des neveux disparus, deux neveux tués. Le premier fils qu'ils m'ont tué, ça fait 26 ans. Ça s'est passé dans les années 90. Le même mois, ils ont tué mon autre fils. En septembre, ils m'ont tué un neveu. En août, ils en avaient déjà tué un. Et le 25 décembre de cette même année 90, un autre cousin a disparu. À cette époque, on ne savait pas qui étaient les tueurs. C'était l'époque de Pablo Escobar. Beaucoup de gens mouraient.
Lola, vous qui avez vécu cette guerre dans votre propre famille, aujourd'hui, qu'espérez-vous ?
Par rapport aux accords, moi je suis pour, car je pense que c'est mieux d'avoir une paix en demi-teinte que la guerre tous les jours. Moi j'apprécie beaucoup le travail de réconciliation et de pardon. Je crois que nous devrions tous être considérés comme des victimes de la guerre, car ceux qui ont fait du mal sont aujourd'hui vivants. Ils ont survécu à toute cette violence. Nous, nous sommes aussi des survivants de cette violence et tous nous restons des êtres humains. Colombie, la paix à petits pas. Ce reportage est signé Sarah Maquet. Réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe. Zora Bensmaili est elle en charge de la page internet. Mixage, Éric Boisset. Dans un instant, c'est le journal de 10h sur France Inter. Bon dimanche.